Vous allez écouter l'émission de Vous à nous en direct, réalisée par les stagiaires de l'espace ressources et insertion de l'Université populaire du Ventoux.
L'UP Ventoux est un organisme d'accompagnement à l'emploi, à la formation et à l'éducation et à l'environnement.
Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'émission de Vous à nous. On est ravis de vous retrouver dans cette émission. Donc je le rappelle, c'est une émission bimensuelle qui est réalisée en partenariat, comme vous l'avez pu l'entendre en introduction, par l'UP Ventoux, l'Université Populaire Ventoux de Carpentras. Et bien sûr, aujourd'hui autour de la table, j'ai toujours les stagiaires comme d'habitude. J'ai quelques nouveaux stagiaires, mais j'ai aussi quelques anciens. Je vais les saluer aujourd'hui. Donc il y a Simonetta, Fabrice, Laurent, Soumia, Paola et Elbaz. Bonjour à tous les six, je ne me trompe pas.
Bonjour.
Bonjour Alain.
Merci, ouais. Ravi de vous retrouver comme d'habitude pour cette émission. Alors aujourd'hui, on a souhaité un petit peu travailler sur le conseil municipal. Alors les élections, vous le savez, c'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Les élections municipales approchent, c'est au mois de mars. Et donc on a souhaité un petit peu, non pas aborder la politique, parce qu'on n'aborde pas la politique sur RTVFM, mais parler quand même du conseil municipal, de l'historique du conseil municipal. Et Laurent, je sais que toi, tu nous parleras de l'histoire du vote depuis la Révolution, c'est exact ?
Exact.
C'est assez effectivement intéressant, parce que souvent on oublie que le vote d'où il vient et depuis quand cela existe. Fabrice, tu nous parleras de la gestion municipale. Mmh. Voilà, on aura Simonetta qui nous parlera d'un maire, quel est le rôle d'un maire, la responsabilité d'un maire. Mmh. Soumia nous parlera du conseil municipal des enfants, et ils sont nombreux dans notre secteur, donc de la COV et même d'au-delà, du département et même au niveau national, puisqu'il y a toute une histoire dessus. Il y aura aussi également Paola et Almaz qui, elles ont souhaité parler un petit peu d'un sujet différent des élections. Nous parlerons des enfants. Les enfants doivent-ils regarder la télévision? Combien de temps? Est-ce que la télévision, c'est bien pour les enfants, ou si justement il faut limiter la télévision pour les enfants? Donc on aura l'occasion d'en parler, de débattre un petit peu sur ce sujet. Et Simonetta, toi, tu reviendras sur un sujet aussi totalement différent des élections municipales, c'est les bienfaits de la marche à pied, c'est exact?
Oui.
Voilà, tu es une marcheuse, tu nous parleras un petit peu des bienfaits de ton rajeunissement suite à la marche que tu pratiques régulièrement en famille avec des amis.
D'accord.
Voilà. Et bien, il est temps donc de lancer cette émission, ce nouveau numéro. Et Laurent, je crois que c'est à toi, tu as la parole pour nous présenter donc un petit peu l'histoire du vote depuis la Révolution. Écoute, Laurent.
Merci Alain. Donc, sous la période révolutionnaire, en 1791, la France est gouvernée par une monarchie constitutionnelle mise en place par la Constitution du 14 septembre 1791. Dans ce régime, le droit de vote est restreint, le suffrage est dit censitaire, c'est-à-dire que seuls les hommes de plus de 25 ans, payant un impôt direct, un cens, égal à la valeur de 3 journées de travail, ont le droit de voter. Ils sont appelés citoyens actifs lorsque les autres sont qualifiés de passifs et ne peuvent participer aux élections. Sous le directoire, après une brève application du suffrage universel masculin, pour élire la Convention de 1792, le suffrage censitaire et indirect est rétabli par le directoire en 1795. Ensuite, sous le Consulat puis l'Empire, la Constitution du 13 décembre 1799 met en place le régime du Consulat, c'est-à-dire qu'elle institue le suffrage universel masculin et donne le droit de vote à tous les hommes de plus de 21 ans. Mais il est limité par le système des listes de confiance. Le système des listes de confiance, c'est un scrutin à 3 degrés. Les électeurs désignent au suffrage universel un dixième d'entre eux pour l'établissement des listes départementales, qui eux-mêmes élisent un dixième d'entre eux pour former une liste nationale. Le Sénat choisit ensuite sur cette liste nationale notamment les membres des assemblées législatives, les tribunes et les consuls. Sous la Restauration, après la défaite de Napoléon Ier à Waterloo, le suffrage universel masculin est aboli et le suffrage censitaire rétabli. Seuls les hommes de 30 ans payant une contribution directe de 300 francs ont le droit de vote. Pour être élu, il faut avoir 40 ans et payer au moins 1000 francs de contribution directe. La loi électorale du 29 juin 1820 du double vote permet aux électeurs les plus imposés de voter deux fois. Ces mesures cherchent à avantager les grands propriétaires fonciers, c'est-à-dire l'aristocratie conservatrice et légitimiste. Après la Révolution des Trois Glorieuses, 27, 28 et 29 juillet 1830, la Restauration fait place à la monarchie de Juillet. Le droit de vote est élargi, le suffrage est toujours censitaire, mais le cens nécessaire pour être électeur passe de 300 à 200 francs et de 1000 à 500 francs pour être élu. De même, l'âge minimum pour voter est abaissé de 30 à 25 ans et celui pour être élu de 40 à 30 ans. Enfin, la loi du double vote qui permettait aux électeurs les plus imposés de voter deux fois est supprimée. Et sous la Seconde République jusqu'à aujourd'hui, le mouvement révolutionnaire qui éclate en février 1848 met fin à la monarchie de Juillet et institue la Seconde République. Le suffrage universel masculin est alors adopté par le décret du 5 mars 1848 et ne sera plus remis en cause. sont électeurs tous les Français âgés de 21 ans et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le droit d'être élu est accordé à tous les électeurs de plus de 25 ans. Le vote devient secret. L'ordonnance du 21 avril 1944 donne aux femmes de plus de 21 ans le droit de vote et auront ainsi le droit de suffrage réellement universel. Les femmes votent pour la première fois aux élections municipales de mars 1945. Pendant longtemps, le droit de vote avait été refusé aux femmes en raison d'arguments misogynes. Les femmes seraient faites pour être des mères et de bonnes épouses, ce qui ne serait pas compatible avec l'exercice de droit de vote ou d'un mandat politique. Le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, abaisse par la loi du 5 juillet 1974 l'âge de l'obtention du droit de vote à 18 ans au lieu de 21 ans. Ensuite, les perspectives d'avenir de nos jours. Le cadre de l'Union européenne offre de nouvelles perspectives quant à l'élargissement du droit de vote. Déjà, pour les élections européennes et municipales, les ressortissants des pays de l'Union européenne résidant en France possèdent le droit de vote et même l'éligibilité à ces élections.
Ben, en tout cas, merci pour tous ces rappels très importants. Moi, un que je retiens parmi tant d'autres, parce qu'il y en a énormément, c'est quand même l'obtention du droit de vote universel en 1848 pour les femmes. Mais elles devront attendre 1944, voire 1945 pour l'exercer pour la première fois. Il a fallu du temps quand même, mesdames, pour arriver quand même à ce que vous ayez le droit de vote. C'est énorme. On ne se rend pas compte un petit peu. Et par rapport à tout ce que tu nous as énuméré, Laurent, là aussi, c'était une histoire d'argent. Alors, pour être élu, pour pouvoir voter, il fallait avoir des ressources, avoir... À la limite, ça s'adressait qu'aux riches. Finalement, il n'y avait que les riches qui avaient le droit de s'exprimer. C'est quand même fou, hein, Fabrice. Tu connaissais un petit peu tout le détail de ces dates ou tu es comme moi, tu en as découvert certaines?
Oui, j'en découvre en même temps que tout le monde. Hein.
Voilà, donc c'est vraiment des choses, beaucoup de dates, des choses importantes. Et bon, il y a une évolution, heureusement. Maintenant, on en a le droit de vote à l'âge de 18 ans, aussi bien les hommes que les femmes, et tant mieux. Et c'est un droit, puis je pense qu'on peut dire qu'il faut l'exercer, il faut surtout pas hésiter. L'abstention n'est pas une bonne chose non plus, il faut pas hésiter à se déplacer pour voter. Merci Laurent pour tous ces détails importants au niveau du droit de vote. Je pense qu'on va peut-être se faire une première pause musicale. Voilà, on va écouter Culture Club et on se retrouve juste après. Et c'est Fabrice qui nous parlera un petit peu justement de la gestion municipale. À tout de suite.
Vous écoutez De Vous à Nous sur RTVFM, l'émission qui donne la parole à ceux que l'on n'a pas l'habitude d'entendre.
Voilà, mais c'est De Vous à Nous, mais c'est effectivement l'émission avec l'UP Ventoux en partenariat avec cet organisme. Et ce matin, autour des micros, nous avons Simonetta, Fabrice, Laurent, Soumia, Paola et Elbaz. Et nous parlons depuis tout à l'heure de l'histoire un petit peu du droit de vote. On parle des élections municipales, puisque justement on approche au mois de mars. Et Laurent nous a retracé l'histoire du vote depuis la Révolution. Donc merci Laurent, effectivement, c'était très intéressant de nous remettre dans le contexte du fait que maintenant on puisse voter à 18 ans, aussi bien homme que femme. On est passé par beaucoup d'étapes et heureusement, maintenant que les choses ont évolué. Et on va passer à Fabrice. Alors Fabrice, toi tu vas nous parler un petit peu, tu es un petit peu comptable toi, parce que nous parler de la gestion municipale, non? Tu as fait des études de comptabilité, non?
Non, pas du tout, non.
Non, bon, alors tu vas nous parler un petit peu de cette gestion justement municipale au travers des maires du conseil et de ses adjoints, on t'écoute.
Alors le maire est la personne chargée de l'administration d'une commune. En France, le maire est élu par le conseil municipal lors de sa première séance qui suit les élections municipales. La durée de son mandat est de 6 ans. Le maire représente la commune devant les tribunaux, les autres collectivités territoriales, autres communes, communautés de communes, départements, régions, etc. Et les autorités de l'État, sous-préfet, préfet. Il prépare les réunions du conseil municipal. Il exécute les décisions du conseil. Le maire gère la commune. Il négocie et signe les différents contrats avec les fournisseurs de biens, matériel mis à disposition du personnel, etc., et des services fournis à la population, alors comme la cantine scolaire privée, service des eaux, ramassage des ordures ménagères, et ainsi de suite. Il gère aussi les biens immobiliers de la commune après décision du conseil municipal. Il est le chef du personnel municipal qu'il embauche, révoque et dont il assure la promotion hiérarchique dans le cadre des règles fixées par les statuts des fonctionnaires territoriaux. Il est membre des droits de beaucoup de conseils d'administration et d'établissements communaux, maisons de retraite, écoles de musique, centres d'action sociale, caisses des écoles et d'établissements d'État, collèges et lycées. Le maire est chargé de l'ordre et de la sécurité publique sur le territoire de la commune. Pour cela, il prend des arrêtés concernant le stationnement, la circulation, les fêtes publiques.
Merci Fabrice. Ce qu'on peut peut-être rajouter aussi, c'est que les élections municipales ont lieu tous les 6 ans. Ça, c'est important, ouais, effectivement, de le souligner. Lors de cette élection, les citoyens choisissent les conseillers municipaux qui vont les représenter. Alors, souvent, on pense qu'on choisit le maire. Non, on choisit les conseillers municipaux qui vont les représenter localement. Le nombre de conseillers municipaux varie suivant le nombre d'habitants. Et l'électeur doit choisir entre différentes listes. On appelle ça un scrutin de liste. On peut peut-être préciser aussi, si tu le permets, Fabrice, que le maire est élu au sein du conseil municipal lors de sa première séance. Donc, souvent, la séance, elle est juste après, la semaine d'après, qui suivent le deuxième tour des élections, de sa première séance après les élections, est élu maire, le conseiller qui obtient au moins 50% des voix au premier, au deuxième tour. Donc il y a un vote après au sein de tous les conseillers qui élisent ou à butin secret ou à main levée leur maire. Donc voilà comment ça se passe. Et au troisième tour, si personne n'atteint ce pourcentage, l'élection a lieu à la majorité relative. Et en cas d'égalité des suffrages, c'est le plus âgé. C'est ce qui s'applique dans toutes les décisions, je dirais, à ce niveau-là, au niveau national et du moins en France. En cas d'égalité des suffrages, c'est le plus âgé, donc qui est déclaré élu. Les adjoints sont, eux, élus successivement selon la même procédure. Donc voilà, on demande qui veut être adjoint, qui veut être conseiller. Bon, souvent c'est décidé en amont, hein, c'est des discussions qui se font en amont, mais voilà un petit peu ce que l'on peut rajouter. Après, tu l'as bien précisé, hein, il propose les budgets, il planifie les dépenses, il passe les contrats et les marchés. Voilà, il a beaucoup, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses, et c'est pour ça qu'il y avait un peu une crise des vocations, que certains maires menaçaient de ne plus se présenter dans les petites communes, parce que ça demande quand même pas mal de temps et beaucoup de responsabilités. Simonetta, est-ce que ça t'aurait pu, toi, d'être conseillère ou de participer à la vie d'un conseiller municipal?
Pourquoi pas?
Oui.
Qu'est-ce
que tu aurais essayé d'amener, toi, un petit peu dans ce conseil, en tant que femme, des choses un petit peu qui, de la vie de tous les jours, qui te chagrinent? Tu aurais aimé proposer quoi ou faire partie de quelle commission pour faire avancer quelque chose?
Beaucoup de choses.
Beaucoup de choses.
Oui. Bon, déjà, aider des gens qui sont pauvres.
Oui.
Et
le social, donc, c'est une cause. Voilà. Tu aurais aimé participer au social, oui.
Et pour les jeunes des quartiers, parce que j'habite dans un quartier, c'est pas évident.
C'est pas évident non plus pour la jeunesse.
Oh là, et pour nous aussi.
Ouais. Et puis, je sais que souvent aussi, tu m'en as fait part, les insalubrités, enfin, les gens qui malheureusement ne font pas attention, qui font beaucoup de choses qu'ils ne devraient pas. Ça aussi, ça te tient à cœur.
Oh oui.
Le non-respect du voisinage aussi, c'est ça?
Ça oui.
Voilà, donc, je vois que tu aurais eu pas mal de choses à dire dans un conseil.
Oh oui, beaucoup.
Ben, tu vois, ça sera peut-être plus tard une des possibilités hein, de te dire, tiens, pourquoi pas participer à la vie de la commune. Je précise, t'habites Carpentras, si je ne me trompe.
Oui.
Merci Fabrice pour toutes ces explications sur la gestion. Mais justement, Simonetta, on va passer à toi. Tu vas nous dire justement qu'est-ce qu'est un maire et les responsabilités du maire. On t'écoute.
Oui. Alors, le maire est un officier d'état civil. Il célèbre les mariages, tient les registres officiels des naissances, mariages, décès qui ont lieu dans la commune. Généralement, il délègue ses fonctions à des conseillers municipaux et à des fonctionnaires municipaux. Le maire est un officier de police judiciaire. Il peut constater et enquêter sur les fautes pénales jusqu'à l'intervention officielle de la police et de la justice. Le maire est chargé de la publication et de l'exécution des lois françaises. Il surveille la scolarité des jeunes habitants. Il met en place les dispositions du code de la route. Il organise matériellement les différentes élections. Il recense les jeunes pour l'appel de préparation à la défense. Le maire est chargé de délivrer différents certificats d'indigence, certificats de nom de vie utiles aux demandeurs dans leur démarche auprès des administrations. Dans l'exercice de ses fonctions, le maire est personnellement responsable des fautes commises par les services communaux ou par les accidents provoqués pour l'utilisation de matériel qui appartient à la commune. Exemple, un jeu pour les enfants dans les squares. Le maire peut également être poursuivi en justice pour prise illégale d'intérêt s'il bénéficie personnellement de certaines activités créées par la commune dont il a la gestion. Contrat de travail à des membres de sa famille ou de marchés publics passés avec des sociétés dirigées par des amis.
Ben, tu as mis le doigt sur plusieurs choses, dont j'en parlais tout à l'heure, qu'il y avait une crise des vocations, mais tu parles beaucoup des responsabilités du maire. Oui. Le maire est responsable de beaucoup de choses, alors ça peut faire peur un petit peu, se dire, oh là là, moi je me présente en tant que maire, je suis responsable de beaucoup de choses sur la commune. Et je pense que c'est un peu ça aussi qui a fait que certaines personnes avaient du mal à vouloir participer à la vie de petits villages, se dire, moi, si pour me retrouver impliqué dans différentes affaires, c'est pas toujours évident.
Ah, non.
Alors, les grosses communes, on peut le dire, ils sont entourés d'un staff de professionnels, il y a des DRH, il y a beaucoup de gens qui travaillent autour du maire, mais le maire de la toute petite commune, ben lui, il est tout seul. Et des fois, il a quoi? Il a une secrétaire qui est là à temps partiel.
Mais oui.
Et ça fait donc beaucoup de choses. C'est pour ça, justement, que voilà, il y avait un peu une crise des vocations. Mm. Merci, en tout cas, pour cette présentation également, Simonetta. On te retrouvera tout à l'heure pour nous parler d'un sujet totalement différent. Ce sont les bienfaits de la marche.
Oui.
Alors, juste avant de retrouver Soumia, qui nous parlera, elle, du Conseil municipal des enfants, on se refait une petite pause musicale. On écoute Julien Doré et on a besoin un petit peu de câlin dans cette société un petit peu compliquée. C'est Coco Caline. Voilà, tout à l'heure.
Sur la plage, Coco,
Voilà, ben on est de retour après Coco Caline de notre ami Julien Doré. Et maintenant, ben j'ai le plaisir d'avoir le micro, ben Soumia. Bonjour Soumia, parce que tout à l'heure, voilà, on pratique un petit peu avec le plateau n'est pas assez grand pour recevoir tous les stagiaires aujourd'hui. Ils sont nombreux et on en est ravis. Alors Soumia, pour toi, c'est une première de parler devant les micros.
Oui, voilà. C'est la première fois.
Tu es stagiaire à l'UP Ventoux depuis combien de temps maintenant?
Depuis le mois d'avril 2019.
Depuis le mois d'avril 2019. Oui. En tout cas, on est ravis que tu sois parmi nous.
Et
toi,
aussi.
Ben voilà, merci en tout cas. Et toi, tu as souhaité nous parler un petit peu du Conseil municipal des enfants, nous le faire connaître. Alors on a appris que c'était quelque chose d'assez ancien, hein, ça date de 1967 si je me trouve, c'est ce que j'ai vu un petit peu sur les textes. À Carpentras c'est assez récent, je crois que ça fait le deuxième mandat où ça existe, Monteux c'est à peu près la même chose. Alors dis-moi, est-ce que tu pourrais nous expliquer donc, comment doit-on faire pour être conseiller municipal des enfants si on est un enfant ou si on est des parents qu'on veut que justement son enfant soit conseillé?
D'accord, donc il faut habiter à Carpentras et être élève de CM1 au CM2.
Alors je précise, je te coupe deux secondes, c'est effectivement pour Carpentras, mais toutes les villes qui ont un conseil municipal des enfants, ce que tu vas nous expliquer, c'est la même chose, c'est la oui. règle générale et nationale pour le conseil municipal oui. des enfants. Je t'ai coupé, je t'en prie.
Merci. D'abord, on parle avec les parents pour être sûr qu'ils sont d'accord.
Oui.
Remettre à ton école ta candidature et l'autorisation de tes parents. Parle avec tes camarades pour connaître leurs idées et leurs besoins afin de préparer ton programme.
Oui, effectivement, il faut faire le tour de ces petits camarades pour voir un petit peu si déjà les camarades ont tendance à voter pour le jeune qui souhaite se présenter. Voilà, parce qu'on le rappelle, c'est au sein même de la classe que ça se passe déjà, la possibilité de se faire élire. Ça démarre par là.
Oui.
D'accord,
oui.
Je te laisse poursuivre.
Après, c'est le conseil municipal des enfants. Ils sont composés d'enfants de toutes les écoles alimentaires de la ville.
De la ville, oui.
Ça peut être Carpentras, Monteux, etc.
Oui.
Ce sont les conseillers municipaux d'enfants. Les conseils municipaux d'enfants représentent tous les enfants de la ville. Mmh. Ils sont proposent des projets pour améliorer la vie quotidienne des enfants de la ville.
Oui, c'est vrai que c'est important. Alors, sur Carpentras, il y a eu plusieurs petites choses. Entre autres, je pense qu'ils voulaient mettre en place, si je ne me trompe, pour les batraciens, les grenouilles, quelque chose pour éviter qu'ils se fassent écraser oui. sur la route. Ils ont voté pour qu'il y ait justement des routes qui soient un petit peu sécurisées pour les animaux. Oui. Après, ça peut être des parcs pour enfants, ça peut être des décisions voilà, qui ont attrait, bien sûr, à tout ce qui est jeunesse. Ils font des propositions au niveau de ce conseil municipal. Et après, au conseil municipal, je dirais, et au maire, de les accepter, de les faire voter par la suite.
Voilà. Oui, quand même, il y en a 28 élèves qui étaient élus.
Il y a 28 élèves élus donc, oui. au sein du conseil municipal oui. des enfants, d'accord. Et est-ce que tu peux nous parler donc, de la mission de ce conseil municipal?
Eh bien, il est élu pour un an.
Oui.
Il collecte les idées et les souhaits de ses camarades, insiste à des réunions régulières, les commissions discutant en petits groupes de certains sujets une fois par mois. La séance préliminaire, ouais. présidée par le maire ou son délégué une fois par trimestre avec tous les conseillers municipaux enfants.
Ça doit être quand même pour un enfant de classe donc, qui est concerné par cette classe d'âge de se retrouver comme ça au sein du conseil municipal, ça doit être impressionnant quand même.
Oui, ben, je compte d'encourager ma fille.
Mais tu as bien raison, je te laisse poursuivre.
Dans ces réunions, il propose et participe à la réalisation des projets utiles pour tous. Il doit informer ses camarades de décisions qui sont prises.
Oui, c'est un rôle assez important. Et donc, si le jeune veut être acteur de sa ville, comment est-ce qu'il doit pratiquer? Tu l'as dit un petit peu en substance, mais bon, est-ce que tu peux rappeler comment il peut faire?
Tu es un élève de CP à CM2, oui, d'une école alimentaire. Tu as reçu ta carte d'électoral. Tu voudras dans ton école pour la candidat...
De ton choix.
Et le candidat de, oui, de ton choix.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, ça peut être fille ou garçon.
D'accord. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu, là aussi, à faire. Celui qui se présente dans sa classe, il faut qu'il fasse campagne, comme on le dit pour les adultes, d'aller voir un petit peu ses petits camarades pour dire, ben, votez pour moi, j'aimerais bien vous, oui, représenter et j'aimerais bien, justement, être au conseil municipal pour faire des propositions. Ça permet aussi, peut-être, de récupérer les idées de ses petits camarades aussi. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils changent dans la ville? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer à tous les niveaux?
Oui.
Voilà. Et est-ce que toi, tu es là, en dehors, bien sûr, puisque tu es une adulte, en dehors du conseil municipal des enfants, est-ce que tu aurais aimé être conseillère municipale, comme un petit peu je posais la question à Simonetta, est-ce que ça t'aurait tenté un petit peu de participer à la vie municipale d'une commune comme Carpentras ou Monteux ou autre?
Oui, pourquoi pas.
Ouais. Et toi, tes idées en tant que femme, qu'est-ce que c'est les choses que tu aimerais qui changent au niveau d'une commune, qui ne te conviennent pas ou qu'il faudra améliorer en général?
Il y a beaucoup de choses.
Comme Simonetta, tu disais beaucoup de choses.
Oui,
ouais.
Il y a beaucoup de choses.
Tu rejoins un petit peu les idées de Simonetta tout à l'heure, les gens qui sont un petit peu cette insalubrité, les gens qui ne font pas attention aussi, qui salissent, le bruit, les choses comme ça, ça te ressemble un petit,
oui,
peu ça aussi?
Oui.
Ouais, d'autres idées sinon qui te viennent un petit peu pour la condition féminine au niveau municipal? Dans les transports?
Un peu, oui. Un peu pour le transport, par exemple, pour le collège.
Oui.
Où les enfants, ils prennent d'un bus à l'autre, alors que moi, si j'étais lui ou quoi que ce soit, j'aimerais bien que le bus il passe devant, il prend les enfants, et jusqu'au collège, il n'y a pas d'arrêt.
Il n'y a pas de changement. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu le département, mais effectivement, les mairies peuvent quand même intervenir. Elles ont leur mot à dire au niveau du département. C'est le département qui a la gestion des transports scolaires, mais effectivement, ils ont leur mot, oui, à dire à ce niveau-là. Donc, ça, c'est,
oui,
un petit peu ça.
J'ai ma fille qui va avoir bientôt 13 ans. Oui. Elle prend un bus pas loin. C'est-à-dire, c'est tout le temps, moi, le matin, que je dois l'accompagner jusqu'à l'arrêt de bus.
Oui.
Et le bus, il s'arrête en plusieurs fois, quoi.
Ouais, c'est pas
tout. Alors que moi, j'aimerais bien que le bus, oui, il prend les enfants, il part directement dans un collège.
Dans un collège.
Voilà.
Ouais, t'as beaucoup de choses à dire, mais c'est très bien, en tout cas. Merci pour cette description du conseil municipal des enfants. Ben, maintenant, on va passer à tout à fait autre chose, puisque on va discuter, on va faire un petit débat entre Paola, Almaz et moi-même sur justement la télévision. Alors, faut-il laisser les enfants regarder la télévision? Alors, pour justement lancer un petit peu le débat, ben, le petit écran peut être la meilleure comme la pire des choses. Il peut isoler, enfermer, voire rendre votre enfant dépendant, mais il peut aussi constituer un fabuleux outil d'éducation, à condition de savoir l'utiliser pour n'en garder que les côtés positifs. Donc, enfant et télévision, l'avoir ou non à la maison, est-ce qu'il faut-il avoir une télévision ou pas? La télévision ne fait pas partie des besoins essentiels, on peut le dire aussi des enfants, hein. C'est une étude qui l'affirme, ce sont des spécialistes qui ont dit que ce n'est pas un besoin essentiel. On n'a jamais réalisé d'études sur les effets induits par l'absence de télévision. C'est vrai qu'on a tendance à dire, oh, oui, mais si mon enfant n'a pas la télévision à l'école, de quoi va-t-il bien pouvoir parler? Eh bien, il n'y a jamais eu d'études en la matière, mais ce qu'on constate, c'est que ceux qui sont élevés sans télévision s'en passent très bien. Et alors, ce qui est surprenant, ils sont même souvent capables de parler de dessins animés qu'ils n'ont pas vus avec leurs copains. Aucun problème à vivre donc dans une maison sans télé. Alors non, au contraire, chérissent les spécialistes de la petite enfance, toujours prompts à mettre les parents en garde contre les effets nocifs du petit écran. Alors Paola, Elbaz, toi Paola, tu as t'es un garçon, une fille?
Moi, oui, je suis maman. J'ai un garçon de 5 ans qui, voilà, il s'appelle Mohamed.
Oui.
Il aime bien s'amuser dans la vie, comme tous les enfants.
De
quoi.
Cet âge-là, oui.
Eh ben, mon fils, il aime bien regarder la télé, mais des chaînes à son âge.
Et comment tu fais, toi, justement? Il a 5 ans. Alors, ce qui est normal, il a envie de regarder des chaînes de son âge. On peut nommer Gulli et autres, parce qu'il y en a beaucoup maintenant pour les enfants. Comment est-ce que toi, en tant que maman, déjà, qu'est-ce que tu penses de la télévision? Est-ce que tu es la maman du style, moi, je laisse regarder la télé autant qu'il veut? Ou non, justement, tu es consciente d'un petit peu de ce que je viens de dire? Non, non, c'est avec un tout petit peu tous les jours. Et moi, je suis là pour le regarder, pour voir ce qu'il voit, pour lui interdire et pour lui dire maintenant ça suffit. Comment ça se passe, toi?
Oui, bien sûr, chez moi et son papa, on reste avec lui, soit moi, soit son papa, on reste avec lui et on lui explique qu'est-ce qu'il est en train de regarder, quoi. Parce que je trouve quand un enfant il regarde la télé, surtout qu'il n'est pas trop âgé, il regarde mais il ne comprend rien. Et il mange que les images.
C'est vrai, on parle de termes, je te reprends, parce qu'il y a un état de fascination de l'enfant et presque d'hypnose. C'est un peu ça, les enfants, quand ils regardent la télévision, moi j'ai un petit-fils qui a 5 ans, on a tendance à l'appeler par son prénom, mais il est dans la télévision, il n'écoute pas en fin de compte. Donc toi, tu fais avec parcimonie. En gros, toi, le temps de télévision par jour, c'est quoi pour ton fils? Tu le limites à combien?
10 minutes par jour.
À 10 minutes. Alors, c'est à quel moment que tu le fais sous forme de récompense ou c'est le soir avant d'aller se coucher? Comment ça se passe?
Quand il va se coucher. Parce que dans la journée, bien sûr, qu'il est à l'école.
Oui.
Plutôt, moi et son papa, on essaie de lui mettre faire la peinture, faire des dessins. Je trouve plus intéressant.
Plus d'activités. Alors, je reviendrai vers toi un petit peu plus juste après. À Elbaz. Alors, Elbaz, toi, tu as un fils de 10 ans, c'est ça?
Oui.
Alors, comment est-ce que tu fais ton niveau de la télévision? Est-ce que tu fais comme Paola? Est-ce que tu limites le temps de télévision? Est-ce que tu fais attention aussi à ce qu'il regarde?
Oui, pour la journée, une heure et demie.
Oui.
Oui, pour comme ça, regarder les enfants toujours.
Alors, est-ce que c'est le soir, toi, la journée, le mercredi, c'est un après-midi, tu limites aussi?
Soir, après-midi, matin, oui, ouais. Après-midi, activité,
ouais.
Pas rester à la maison,
ouais.
Samedi aussi, dimanche, ouais. Oui, regarde télé.
Alors, est-ce que par contre, de temps en temps, tu dis, bon, maintenant, stop, la télé, on arrête, et tu vas lire un petit peu? Est-ce que la lecture fait partie aussi de ce que tu demandes à ton fils, c'est-à-dire de lire un petit peu?
Ah oui.
Ouais.
Oui, je connais pas... Pour journée, une heure et demie, et à regarder la télé, un autre. Non.
Et après, le résultat, tu lui demandes de lire ou de faire des activités?
Oui, activités, lire, c'est comme ça.
Paola, la lecture, est-ce que ça fait partie un petit peu de l'univers de ton fils? Est-ce que tu lui demandes aussi de lire? Est-ce que tu l'aides justement? Enfin, lire, il est plus de 5 ans, donc il commence juste. Il ne sait pas lire encore à 5 ans, mais est-ce que toi, tu l'aides un petit peu? Est-ce qu'il consulte des livres avec toi, avec le papa? Comment ça se passe au niveau de la lecture?
Moi, c'est vrai que j'essaye beaucoup de l'aider, pardon.
Oui.
Mais c'est vrai que j'ai du mal, moi, avec la lire, écrire, mais surtout, c'est le papa. Parce que lui, il sait bien écrire et lire.
Donc, effectivement, il se met avec lui un petit peu, lui montre des livres. Alors, c'est vrai que c'est là que je commence à regarder les images, à se faire un petit peu des petites histoires. Alors, justement, la télévision, on dit aussi qu'elle engendre la passivité. C'est-à-dire, quand tu regardes la télévision, on l'a dit tout à l'heure, tu es hypnotisé, tu ne fais pas grand-chose. Est-ce qu'il ne faut pas laisser une grande place aux enfants, justement, au jeu, pour qu'ils aient un petit peu, qu'ils se fassent un petit peu leur scénario, leurs histoires? Est-ce que la télé ne vient pas, justement, annuler ce genre de créativité?
Moi, j'essaie plus de le mettre entre les jeux, entre les activités, mais pas sur la télé. Pour moi, ça sert à rien. Voilà,
c'est à minima. On l'a bien compris un petit peu toutes les deux. Tu es un peu dans ce même schéma. La télévision, oui, mais il ne faut pas trop non plus la regarder. Elbaz, est-ce que ton fils pratique une activité sportive?
Oui, ping-pong.
Ah, ping-pong.
Oui.
À Carpentras?
Oui.
D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'il pratique régulièrement, le ping-pong.
Oui.
Et toi, est-ce qu'à 5 ans, même si c'est petit, est-ce qu'il commence un petit peu déjà la baignade, la natation, des petites choses? Non, qu'est-ce qu'il fait un petit peu comme...
L'été, il fait la piscine.
Oui.
Il aime trop le ballon.
Quand tu dis trop le ballon, ça veut dire quoi? C'est qu'il a...
Il aime beaucoup, sans limite. Plus tard, il veut faire ça, il veut être footballeur.
Oh, c'est une bonne chose, il faut le laisser, c'est une bonne chose justement qu'il puisse faire du foot, c'est la bonne chose. En tout cas, on a bien compris toutes les deux que la télévision, ça appauvrit l'imaginaire. C'est ce que l'on dit aussi, ce que disent les spécialistes. Ça abreuve de rêves préfabriqués, c'est-à-dire que les enfants ne font plus marcher leur imaginaire, ils ne font plus leurs petites histoires, comme tu viens de le dire, ou toi le tien, il va jouer, toi aussi elle base avec des jeux, et automatiquement, il va se créer des petits scénarios. Ils ne savent plus raconter d'histoires, c'est vrai que la télévision elle aime un petit peu ce côté-là, d'où une dépendance grandissante au petit écran qui vient combler leur vide intérieur. Et donc on terminera peut-être ce petit débat par plus un enfant regarde la télévision, plus il aura envie de la regarder. Donc voilà, limiter, on voit que vous les deux mamans faites attention à cela. On a peut-être l'occasion d'aborder d'autres sujets, dont justement le téléphone portable, même si toi, Paola, est encore tout petit. Mais 10 ans, est-ce qu'il commence à te demander un peu le téléphone, pour un petit peu avoir un téléphone portable ou pas encore?
Oui.
Ça commence?
Téléphone, oui.
Il en a un ou il te le demande, le téléphone?
Demande pas toujours, ouais. Oui, ouais. Enfin, pas
ça,
toujours.
Et ça, c'est pas toujours facile. En Soumia, t'as des enfants aussi?
Oui, j'ai deux filles.
Est-ce que t'as le même problème? Je t'ai pas posé la question au niveau de la télévision.
Moi, c'est complètement le contraire de Paola et...
D'Elbaz. Oui.
C'est pas de télé. Ils sont pas intéressés par la télé. Ils sont intéressés plus par l'extérieur, aller s'amuser à l'extérieur. Ouais.
Mais je mens pas, quand je rentre chez moi à la maison, mmh. Eh ben, je vois toutes les deux dans leur chambre avec le portable.
Ah, le fond, quel âge? Je ne t'ai pas demandé l'âge de tes enfants.
Alors, 13 ans et 10.
Eh oui, 13 ans, c'est l'âge portable pour communiquer, regarder des vidéos, des choses comme cela.
Voilà.
Et là, c'est plus compliqué pour une maman d'aller justement voir ce qu'ils regardent, leur interdire, parce que c'est la facilité quand on a le téléphone.
Bien sûr, bien sûr.
Et, déjà, là, comment tu fais là, justement? Tu te bagarres un peu avec?
Non, c'est pas ça. Je surveille un peu de loin.
Tu surveilles un petit peu de loin ce qu'elles regardent. Et tu essaies de faire attention le soir à 20h30 qu'elles vont se coucher, qu'elles ne continuent
plus
pas sous l'oreiller. Voilà.
Non.
Alors, comment tu fais pour plus de portable? Tu leur fais éteindre, tu leur fais confiance ou c'est
Je coupe la Wi-Fi.
D'accord, ça c'est une bonne chose aussi. Donc tu coupes la Wi-Fi, comme ça tu es sûr qu'ils ne pourront pas aller consulter le portable.
Voilà.
Ah oui, c'est pas mal, tu as trouvé une bonne idée.
Je coupe la Wi-Fi.
Voilà. Et la télé, donc tu me dis, ça ne t'intéresse pas plus, ça sont plus sur l'écran. Alors, tout ce qui a été débattu par Elbaz et Paola ou sur la nocivité, tu es consciente aussi qu'effectivement ça peut avoir un mauvais impact sur les jeunes.
J'ai ma fille, des fois je l'appelle, elle ne m'attend pas. Elle ne m'attend pas, elle n'est pas là.
Ah oui, elle est sur son écran.
Voilà.
Et c'est vrai que c'est un outil qui peut avoir d'énormes avantages, mais beaucoup d'inconvénients aussi, le téléphone portable.
Oui.
Voilà. En tout cas, merci à toutes les trois. Merci à Soumia qui nous a parlé du conseil municipal des enfants. Merci à Paola. Merci à Almaz. Donc le sujet, c'était: faut-il laisser les enfants regarder la télévision? On a bien compris, oui, mais avec parcimonie, il faut faire attention et surveiller. On va faire une dernière pause musicale et on terminera par le sujet de Simonetta qui, elle, va nous parler des bienfaits de la marche à pied. Donc voilà, on traite un peu tous les sujets dans cette émission de Vous à nous. On se retrouve juste après cette petite pause et on attend Simonetta qui va nous rejoindre immédiatement. Merci.
Merci à vous.
Mal rasé, on vient de débarquer. 35 jours de galère et de nuit pour se vider. J'avance sur ce quai humide, la sueur brûle comme l'acide. L'enfer va commencer. Bière chaude et narguilé, chez Mario tout oublié. Machine dans ma tête, machine sous des tempêtes. Mais cette machine dans ma tête, laisse-moi tuer une nuit secrète. T'as tout mon âme à mon dégoût. L'amour, il faut payer. Ivre et grâce, elle m'entraîne vers l'angoisse et la rengaine. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. Mais cette machine dans ma tête, laisse-moi tuer une nuit secrète. Mon espoir s'est échoué. J'en ai marre de ramer. La détresse a pollué l'océan de mes pensées. We'll be right back.
Cette émission vous est présentée par les stagiaires de l'UP Ventoux.
Voilà, ben, après avoir parlé des dangers de trop regarder la télévision, de trop de télévision pour les enfants, maintenant on va parler des bienfaits de la marche à pied, aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
Oh oui.
Mais toi, Simonetta, tu vas nous parler un petit peu de ce sujet parce que tu es une marcheuse. Tu
oh
nous
oui.
as dit que tu aimais marcher, c'est une de tes passions.
Oh oui.
Et tu vas nous expliquer bon, déjà pourquoi tu marches et quels sont les bienfaits que, cela, que la marche apporte.
D'accord.
On t'écoute.
Bon. Alors, pratiquer la marche à pied régulièrement permet de maintenir un poids stable, faire baisser la tension artérielle et le taux de mauvais cholestérol, réduire le taux de glucose, améliorer l'humeur, la mémoire et la fonction cognitive, diminuer le stress et augmenter la durée de vie. De nombreuses études ont prouvé qu'il s'agit d'une forme d'exercice bénéfique à partir de tout âge. Le minimum recommandé est une durée de 30 minutes de marche d'intensité modérée, 5 jours par semaine. D'après une étude, les bénéfices au niveau de la taille et du cholestérol, de la tension artérielle et du contrôle de glycémie se font sentir à partir de 15 000 pas par jour. L'objectif habituel pour les personnes qui pratiquent la marche à pied est de 10 000 pas quotidiens. Seulement 2 heures de marche par semaine auraient pour effet de diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral de 30%. La mémoire n'est pas en reste. Marcher durant 40 minutes 3 fois par semaine, aurait des effets protecteurs pour toutes les zones du cerveau en charge de la mémorisation. Enfin, le symptôme de la dépression se verrait réduit de 36% avec la simple réalisation de 30 minutes de marche quotidienne. Enfin, et pour conclure, la fonction digestive se trouverait améliorée par la marche et le risque de développer un cancer du côlon diminuerait dès 30 minutes d'effort quotidien. La marche est un fabuleux médicament, la meilleure des préventions, et ses bénéfices sont innombrables.
Mais par rapport à ce que tu viens de nous lire, effectivement, les bénéfices sont innombrables. Il faut,
oui.
En sortant de là, il faut qu'on aille tous marcher, je crois.
Hein. Oh, oui.
Donc tu as bien raison de pratiquer cette activité de marche. Alors, tu marches où en général? Comment tu fais quand il y a peu de temps? C'est autour de chez toi ou tu prends
je
la voiture?
Je marche, je fais le tour de ville.
Oui.
Ou alors le week-end, je pars en montagne parce que j'adore la montagne.
Oui.
Voilà. Bon, ça nous arrive de marcher en famille ou même avec amis. Mm-hmm. Mais c'est vrai que quand je rentre, je me sens mieux. Je suis plus calme. Je rentre à ville, je suis une hystérique. Voilà, mais quand je reviens, je suis à la montagne, je suis calme.
Tu es calme, tu t'es calmé par le fait que tu as marché.
La montagne, la nature.
Alors, tu marches avec des bâtons ou sans bâtons? Parce qu'il y a un petit peu aussi la marche, ça se voit beaucoup maintenant les marcheurs avec bâtons.
Non, sans bâtons.
Toi, sans bâtons.
Oui.
Est-ce que quand tu marches, tu papotes, tu discutes ou justement, non, tu es dans la marche. Non,
non
tu prends,
marche,
c'est la marche de
on discute. On...
Marche de loisir.
Voilà. Voilà.
Ben, peut-être on va demander à Fabrice si lui c'est un. Alors dans ton ancien métier, ben, tu étais un marcheur parce que tu étais un peu par obligation. Est-ce que maintenant tu marches toujours ou justement moyennement?
Oh, moyennement, mais bon, quand même, je marche un peu dans la nature. Ouais,
ben, tu vas de ton lit à la cuisine, de la cuisine à ton lit? Non, je rigole.
Quand je vais à la chasse à la tubermélanosporum, par exemple.
Ah, tu es ramasseur de champignons et de truffes?
De truffes.
De ouais. Truffes, d'accord. Donc là, ça donne là, effectivement, tu es obligé de. Tu marches un petit peu.
Avec ma chienne princesse.
Avec ta chienne princesse. Ah, je ne savais pas que tu cavais les truffes. Et toi, Laurent, dis-moi, est-ce que tu aimes la marche?
Oui, j'adore.
Oui? Toi aussi, tu fais un petit peu comme Simonetta. Quand il n'y a pas trop de temps, tu marches autour chez toi. Et quand tu as plus de temps, tu pars à l'extérieur.
Pas régulièrement, mais le plus possible.
Ouais. Oui. Et est-ce qu'il y a des endroits en particulier? Tu marches sur terrain plat ou peu importe, s'il y a du relief, tu aimes ça aussi?
Moi, j'aime bien, du moins que c'est en nature, qu'il y a de...
Ouais, tu es un solitaire ou tu marches en groupe?
Ouais, plutôt seul.
Toi, tu es un solitaire, donc
ouais.
Tu prends... Et ça te vide un petit peu l'esprit, la marche,
ouais,
tu pars comme ça?
Ça, c'est un plaisir, ouais.
Ouais. Et toi, Simonetta aussi, ça te vide un petit peu les soucis, tout ça, laisse
oui.
De côté, tu pars, tu
oui.
Es... Et du plat ou alors avec un petit peu du relief, ça te gêne pas?
Non, ça me gêne pas, moi.
Ça te gêne pas?
Non.
Et t'as commencé à marcher il y a très longtemps ou tu t'es dit, tiens, ou ça fait déjà longtemps?
Oh non, il y a longtemps.
Ouais.
Longtemps. Même quand j'étais plus petite avec mes parents. Voilà, ça a démarré de là et voilà. Donc, j'aime la nature, j'aime la montagne.
Donc vous avez toujours été des marcheurs dans la
famille?
Oui,
oui, oui.
Voilà. Et toi, Fabrice, dans la famille, on marchait un petit peu ou vous n'avez pas le temps, les parents, de marcher parce qu'ils étaient pris par le travail?
Mon père marchait beaucoup parce qu'il était chasseur.
Ouais.
Puis j'aimerais rajouter une petite chose. Moi, j'ai entendu dire que le talon, c'était le deuxième cœur.
Oui, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure en off, que c'était le deuxième cœur.
Ça fait office de pompe quand on marche. Et c'est ça qui soulage le cœur et qui permet de...
Et donc,
de...
on comprend peut-être un petit peu mieux le fait que la marche soit quelque chose de très bénéfique, parce que justement, ça doit, au niveau de la pression artérielle, ça doit avoir, avoir un impact au niveau de la marche.
Oui.
En tout cas, beaucoup de possibilités de marcher. On est dans un beau département, il y a largement de quoi faire de la marche. Peut-être se rapprocher des offices de tourisme pour ceux qui veulent... qui aurait peut-être un petit peu peur de s'aventurer comme cela. Il y a des fléchages, il y a des choses qui sont quand même assez indiquées pour les sentiers, pour marcher, voilà. Et puis même si on marche autour de chez soi parce qu'on n'a pas le temps nécessaire, parce qu'on ne veut pas prendre la voiture non plus, ben on peut marcher autour de la maison, on peut marcher autour de chez soi ou marcher en ville. Il y a plein de possibilités de faire la marche. La prochaine marche que tu as programmée, tu as une idée ce week-end, tu y vas un petit peu?
On ne sait pas. Là, on avait programmé avec ma fille et son copain et ma mère, parce que ma mère, c'est une grosse marcheuse. On voulait aller dans les Alpes.
D'accord. Mais là, vous partiez pas que le week-end, pas qu'une journée.
Non, partir plusieurs jours.
Là, vous auriez loué un gîte et vous seriez faire des marches.
Ben, on ne sait pas encore. Ma fille, on va regarder par Internet.
Oui.
Et on va voir.
Et on va voir.
Oui.
Et toi, tu as prévu quelque chose au niveau de la marche, Laurent? Non, rien de t'as pas programmé.
Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant. Voilà. Donc, toi, c'est comme ça. Si t'as envie, d'un coup,
l'occasion se présente.
Ouais. Par contre, on parle de marche, mais on parle un petit peu de. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de vélo électrique, puisque Fabrice, tu as un vélo électrique.
Oui.
Pourquoi tu t'es mis au vélo électrique, Fabrice?
Pour faire des petits trajets sans polluer, enfin sans trop polluer, parce que on a quand même besoin de courant, mais c'est vrai que c'est
pas désagréable non plus.
C'est pas désagréable, non, ça fait quand même des exercices. Hein. Ouais. C'est après à nous d'appuyer sur la pédale.
Laurent, vélo électrique aussi également?
Non.
Vélo tout court ou pas trop vélo, toi?
Pas trop vélo.
Pas trop vélo. Et Simonetta, pas trop vélo non plus?
Non.
Ouais, toi, tu es plus à pied. T'aimes bien être sur la terre ferme.
Oui.
Eh bien, en tout cas, on l'a bien compris. En tout cas, ce que je peux dire, merci à toutes et toutes pour cette émission. J'espère que les auditeurs, vous avez trouvé cette émission très agréable, tous les sujets qu'on a pu aborder ce matin. N'hésitez pas à les réécoutables en podcast sur le www.rtvfm.net, comme toutes les émissions d'RTVFM. Donc, n'hésitez pas, elles y sont toutes. Il faut être curieux, allez voir, vous verrez. On traite beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. En tout cas, merci à Simonetta. Merci à Fabrice, merci à Laurent, merci à Soumia, merci à Paola, merci à Elbaz d'avoir participé à cette émission. On vous donne rendez-vous donc dans 15 jours de Vous à nous, l'émission en partenariat avec l'Université Populaire Ventoux de Carpentras. Merci beaucoup.
Merci.
Et on se donne rendez-vous dans 15 jours. Merci, au revoir.
Au revoir.